Amis de Radio Silence, bonjour. Vous écoutez Flash sur le monde de Élise Mbok. Nous sommes le mercredi 13 mai et une surabondance d'informations fait que ce flash sur le monde va avoir un peu quelque chose de spécial, voilà, on va appeler ça spécial parce qu'il fait un peu le tour, pas le tour, mais il relate un peu tout à peu près, hein, l'essentiel de ce qui rôde, on va dire comme ça, ou qui entoure, c'est encore plus joli, la question du déconfinement. Maintenant, on ne parle plus du confinement, quoique on parlera longtemps du confinement, puisque le confinement est devenu une question politique et les politiques seront jugés toujours avec ce rappel sur le comment ils ont géré la question du confinement, justement. Et pour lancer donc les hostilités, je vais me référer au point soulevé par le professeur Raoult, que tout le monde consulte maintenant. Et ce professeur, lors de son entretien avec BFM Télé, a dit des choses. Bon, notamment que on verra à la fin de l'épidémie, si on peut appeler cela comme cela, parce qu'il n'y aura pas vraiment une fin, comme il a dit, mais le virus, il a décrit le cycle des virus qui apparaissent, donc, je veux dire, l'épidémie commence, elle s'accélère, à un moment donné, elle culmine, elle diminue, et puis, comme toute autre épidémie, elle disparaît, comme cela, on ne sait pas comment et pourquoi, mais les épidémies finissent par disparaître toutes seules. Mais dans cet entretien fleuve, hein, pas fleuve, mais d'une heure, mais qui est tellement dense et riche, parce qu'on a rarement l'occasion d'écouter déjà un professionnel, et au-delà d'être professionnel, le professeur Raoult, comme lui-même l'a dit, il fait de, je ne sais pas s'il a parlé de l'épistémologie des sciences, donc c'est quelque chose de fascinant. Du coup, il est vraiment intéressant. Il est intéressant d'abord parce qu'il a une parole libre, et ça c'est devenu rare, parce que vous savez, aujourd'hui, le politique est devenu un peu tyran, malheureusement, et il a tendance à censurer dès lors que ce n'est pas lui qui est en première ligne. Le politique aujourd'hui s'attire toute la lumière, il attire toute la lumière à lui, et puis les autres doivent rester dans l'éteignoir et surtout la fermer. Ça nous, comment je vais dire, c'est un appauvrissement de la civilisation que de constater qu'il y a très peu de gens qui osent comme ça, comme le professeur Raoult, pas se lever, mais dire les choses, c'est tout. Et ne pas attendre de sanctions, parce que les sanctions, vous savez, on essaye de vous bloquer la carrière ou carrément de l'empêcher. Et c'est dommage pour la réflexion, c'est dommage aussi pour quelque chose que je vais appeler la passion, pourquoi pas la passion de la pensée, la passion de l'action, la passion je ne vais pas dire la prise de risque de quelqu'un de métier qui fait son métier et qui pense les choses en fonction de ce qu'il fait en tant qu'expert de cette chose-là. Donc le professeur Raoult a dit qu'on verra à la fin, il y aura les chiffres. Hein. Les chiffres nous diront s'il fallait déconfiner ou pas, pays par pays, qui a déconfiné, qui a confiné d'abord, comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et qui n'a pas confiné, comme la Suède, qui est donné un modèle, un grand exemple, comme je crois la Corée du Sud aussi n'a pas confiné, le Vietnam n'a pas confiné. Bon, on va pas énumérer tout cela parce que Moi, quand je fais une émission, ce n'est pas tellement les chiffres qui comptent. Ça, c'est la partie informative. Hein. Moi, je m'occupe de la partie communication, étant donné que la communication aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait là dans le marketing. Hein. La communication aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui relève, qui va même au-delà de la politique, c'est-à-dire que ce serait une philosophie de la politique et ça nous déporte des chiffres qui, dans l'exercice, ne sont pas vraiment le sujet, et parce qu'après, ils éclairent la réflexion. On va dans la réflexion, donc il y aura les chiffres, et il y aura le protocole de la chloroquine qu'il a expliqué, dont la prise en charge médicale. Il y aura la chloroquine, c'est ça? Oui, hydroxy, machin, c'est compliqué ça, c'est pour les médecins. Et il y aura ce qu'il a appelé. Il a qualifié de science-fiction le fait qu'on puisse parler d'une deuxième vague de l'épidémie. Et il y aura beaucoup de questions. Bon, déjà sur la question des chiffres quand même, puisque on n'a pas besoin des chiffres déjà, on sait que du côté de la mortalité, donc parce que quand on va aller dans les chiffres, on verra le ratio entre la mortalité et le nombre de contaminés. Et sur ce ratio déjà, c'est inquiétant parce que la France a un ratio plus élevé que les États-Unis, par exemple. Et ça dit beaucoup de choses que le professeur Raoul critique notamment dans la prise en charge des malades. Deuxièmement, toujours dans cette histoire des chiffres, on aura le ratio aussi entre le nombre de contaminés et la population totale. Ça sera aussi intéressant à voir. Et ensuite, on aura toujours dans les ratios, on peut inclure les testings, pourquoi pas, parce que les testings, c'est l'objet d'un grand débat. En fait, le confinement, il part d'une hypothèse. Ceux qui sont malades sont à l'hôpital, donc ils sont a priori auto-dépistés, si vous voulez, puisqu'ils y viennent par la force de la maladie. Et ceux qui ne sont pas malades, dont les porteurs sains, sont à la maison. Donc ça, c'est l'hypothèse. Normalement, si on va au bout, non pas de l'effet information, hein, panique, mais de l'effet, comme je vous dis, soit lors de l'expertise médicale du docteur Raoul, si on fait cette hypothèse-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait un deuxième pic, puisque tous ceux qui sont contaminés sont forcément poussés vers l'hôpital. Alors on vous dit, mais non, il y en a qui sont à la maison, qui ont pu se traiter par eux-mêmes de façon comment on dit, abracadantesque, et qui ont plus ou moins guéri et qui pourraient traîner comme ça, être contagieux sans. Enfin, ils ont développé des anticorps, ils sont donc immunisés, eux, mais contagieux. Donc il faut tester, mais comment tester? On est surpris de voir que tout de suite l'Allemagne, qui a déconfiné justement, et quel autre pays aussi, je crois que c'est la Corée du Sud d'ailleurs, est partie en arrière en disant oh non, 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 il faut reconfiner vite fait parce que on voit que les cas repartent à la hausse. Mais c'était prévisible, les cas repartent à la hausse parce qu'il y a ce genre de. Il y a les testings qui n'ont pas été faits sur la population dite saine. Et pourquoi les testings n'ont pas été faits? Parce que les gens étaient confinés, ils n'étaient pas dehors. Je vais dire, c'est le serpent qui se mord la queue dans ce raisonnement du confinement. Mais ça, on a beau le dire et personne n'écoute. Donc, c'est bien beau de dire, oui, bon, on reconfine vite fait. Mais on reconfine vite fait, on reporte le problème à plus tard, puisque ces malades-là qu'on dit qui n'ont pas été répertoriés, identifiés, ils seront toujours là. Et comment on saura? Il faudra bien les tester. Et pourquoi ne pas tout de suite s'engager dans une campagne de testing? Ah ben non, c'est trop cher. On peut peut-être faire mieux, on va faire des contorsions. Honneur à Monsieur le Président des États-Unis qui dit qu'il est le seul, enfin le seul, que l'Amérique a le plus testé. Bon, si tel est le cas, on prend, mais on se dit quand même qu'il y a eu le confinement. Il y a eu le confinement et qu'il y a des gens qui ont échappé au test. Du coup, le professeur Raoul, on revient toujours sur lui, qui réfléchit, un homme de science qui réfléchit. Lui, il a posé la question en termes de prise en charge, en termes de prise en charge sanitaire. Donc c'est la prise en charge sanitaire qui n'a pas marché dans tous ces, comment on va dire, ces attendus, voilà, dans tous ces attendus, et qui font qu'à la fin, on a un peu ce sentiment de confinement loupé. Mais si on avait écouté les médecins, au lieu que les politiques se mettent en avant, les choses n'en seraient pas là. Le professeur, donc, dans son protocole qu'il a détaillé, il a détaillé que la chloroquine, contrairement à ce qu'on pensait, n'était pas le tout du traitement médical. C'était la première phase, cette première phase qui permettait justement de ne pas amener le patient en réanimation parce que ça apportait déjà une première solution au problème on va dire, du protocole médical, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on a réduit la question à la chloroquine, mais il y avait plus que la chloroquine, justement, parce que la prise en charge se fait en quatre phases, tel qu'il l'a dit. Après, c'est compliqué, il faut suivre. Du coup, nous, on n'est pas médecin, on va pas parler de ça. Du coup, la question de la dangerosité et de la contagiosité, pour lui, du virus, n'est pas exceptionnelle. D'après ce qu'il a vu et d'après ce qu'il connaît du comportement des virus, enfin des virus et des épidémies, franchement, ce n'est pas exceptionnel. Donc pour lui, si on a un taux de mortalité, par exemple, pour la France de 0,8%, ce n'est pas non plus catastrophique. Quoique, on n'est pas en train de diminuer la mort des gens, mais on est en train de dire il faut comparer des choses comparables et puis raison, et surtout, comme on dit, il faut en toute chose raison garder. Le confinement, donc, sera vraisemblablement jugé comme, je ne vais pas dire un échec, parce que ce sont des mots qui font mal, mais comme une sorte de... Enfin, il y a eu quelque chose de loupé là, un loupé, et on le voit très bien parce qu'à partir du moment où on a confiné, on a arrêté l'économie, on voit que se pose la question de comment les gens vont vivre, et dans ce comment les gens vont vivre, l'argent a commencé à sortir d'ici là, au point que le Ron Paul Institute, par la voix du sénateur, enfin de l'ex-sénateur Ron Paul, qui est le créateur de franchement, de cet organe de presse alternatif, dit que la Fed est pire que le coronavirus, parce que cet argent qu'on sort comme cela, alors que l'économie pouvait continuer à tourner avec cette campagne massive de testing et puis des politiques imaginatives aussi, hein. Il ne faut pas non plus rester à des schémas largement répliqués, comme on dit, dupliqués, puisque chaque virus arrive avec sa singularité. Donc il faut s'y adapter un peu, une singularité dans la réflexion et dans l'action politique. Et je me réjouis de voir, je me réjouis, non, c'est un trait d'humour, hein. On est content quand même, on est content de voir que la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, c'est ça? Je ne sais pas si je prononce bien, est contre. Voilà, elle a légiféré contre la Banque Centrale Européenne, vous vous rendez compte, pour dire que non, et eux, ils ne sont pas d'accord avec cette distribution, cette politique d'aide de la Banque Centrale des États sur le coronavirus, parce que quelque part, c'est de l'argent qui est tiré comme cela sans contrôle. Ce qui a irrité la Cour de justice donc, de l'Union européenne. Alors vous voyez, il y a la Banque centrale, hein, et la Banque centrale, ses arrêtés ne peuvent être jugés et contredits que par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ficelé là, bien verrouillé. Et la présidente de la Commission européenne, donc, qui était une ministre d'Angela Merkel, a dit que ben là, l'Allemagne, son pays, Karlsruhe, a donc fait quelque chose, comme je vais dire, a outrepassé peut-être leurs droits, donc ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'infraction au règlement, vous vous rendez compte? Procédure d'infraction parce que une région est contre la façon dont la Banque centrale émet l'argent comme cela, tout simplement parce qu'il se pourrait qu'à la fin, tout le monde soit co-responsable de cette dette-là. On est dans le politique encore du traitement de l'affaire du corona et ce politique qui fait que, parce qu'on sait que l'argent facile arrive, Les politiques ne veulent même pas passer à autre chose. On reconfine vite fait, on reconfine vite fait. Or, comment dirais-je, le confinement a montré ses limites, et ça, on ne va plus en parler. Il est symptomatique quand même dans cette histoire de voir que on pensait que le danger viendrait du nucléaire, et on se rend compte que le danger vient des virus, de la guerre bactériologique. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur combattre l'Iran avec sa guerre, son arme nucléaire, qu'on ne pense pas autre chose. Et alors, c'est vrai, quelqu'un a dit, en parlant des critiques de M. Trump, ils ont dit oui, mais M. Trump était averti depuis longtemps. Il y avait une simulation par la fondation Bill Gates du côté de New York. Hein. Ça fait un moment, au moins 10 ans, en association, en partenariat avec une autre fondation ou l'université, je crois, Hopkins. Et ils ont donc fait une simulation sur une guerre bactériologique qui tuerait, d'après leur hypothèse, 65 000 personnes, par exemple. Donc, comment est-ce que les États réagiraient à ce type d'événements? Ils ont fait une simulation, grandeur nature, et apparemment, cette simulation était faite en collaboration avec le Deep State, hein, qu'on appelle, dans le FBI au courant, la CIA au courant. Et ils ont, au début de l'épidémie, présenté donc cette simulation-là au président. Et bah, évidemment, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quelque chose sorti de la tête des gens. Bah, évidemment, Trump n'a pas tellement pris cela au sérieux, d'autant que, franchement, l'histoire de Corona, elle arrive comme ça. C'est une coïncidence. Alors, est-ce une coïncidence? Est-ce une prémonition? Est-ce, ça dit toujours une coïncidence, mais la prémonition, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire, c'est plus fort. Ou alors, est-ce, c'était suspect, ce genre de choses. Alors, le président Trump s'est reposé sur l'OMS. L'OMS, qui au début aussi était un peu prise dans la tourmente. Prise, l'organisation, oui, prise dans la tourmente. Et voilà. Après, on lui dit, il a réagi tardivement parce qu'il voulait écouter l'OMS qui n'avait pas de solution au lieu d'écouter le protocole Bill Gates qui disait très bien que une telle situation était prévisible. Mais c'est bizarre, hein, personne n'a vraiment prévu le 9-11, mais passons. Les critiques contre Trump sont renvoient à ce que le professeur Raoul disait. D'abord, on intervient tardivement, et comme on intervient tardivement, on prend des décisions classiques parce qu'on n'a rien d'autre à la main, mais en même temps, il y a l'effet de surprise et le fait du temps qui passe. Et on dit qu'il a compté sur la chloroquine, mais évidemment, il n'a pas utilisé comme le professeur Raoul l'a dit. Et à côté de cela, on se fait la guerre entre démocrates et républicains sur même ce confinement et sur la sortie du confinement. Trump a beau dire qu'il est celui qui teste. Moi, je sais, on voit plus très bien comment il peut dire qu'il a testé le plus alors que les gens sont confinés, ça grippe, ça grippe, ça grippe. Dans tout ça, on a vu New York ramener un bateau de guerre, soi-disant les lits manquaient. Mais quand on regarde autour, on voit qu'il y a dans des hôpitaux des lits qui sont vides, des lits qui sont vides, qui ne sont pas utilisés. Bon, certains hôpitaux n'ont pas été réquisitionnés, on ne sait pas pourquoi. D'autres, ceux qui l'ont été, ont été surchargés. Il fallait ramener un navire de guerre. Tout cela faisait trop mise en scène finalement, ou plutôt exagération de la panique. Bref, on en sort. Mais il y a quand même la question de la prise en charge médicale qui reste, comment dirais-je, le point focal de l'épidémie. Ceux qui ont voulu soigner ont soigné, ceux qui n'ont pas voulu soigner ne l'ont peut-être pas fait, mais disons que tout le monde a soigné à sa façon. Et ce qui va être nouveau, c'est donc l'apport de Madagascar. Madagascar qui a découvert enfin il a découvert, oui, ils ont découvert un traitement contre le fameux virus. Et ce traitement a la particularité d'être une tisane à base d'une plante qu'on appelle l'artémisia. Ce qui serait bien quand même, et on attend beaucoup cela, c'est que toute l'Afrique puisse commander ce remède, le tester, puisque Madagascar affirme qu'ils ont testé ce remède et ça marche. Bien sûr, il y a des pays qui ont commencé à commander. On a le Sénégal, on a, je ne sais plus les pays là, je n'ai pas retenu. Mais le Sénégal, c'est emblématique. Ils ont commandé cette potion magique. Il faut que tous les pays africains essayent de tester vraiment ce remède jusqu'au bout, de façon à apporter une expérience grandeur nature et en plus écologique dans le traitement d'un virus. Ce serait vraiment bien. Et malheureusement, pour le moment, on n'a pas tous les acteurs africains qui suivent le mouvement, mais il y a plusieurs qui ont déjà commandé et ça, c'est une bonne chose. Ça fait partie donc de ce que le coronavirus nous apporte de bien, à savoir que l'Afrique peut fournir un remède et qu'on n'est pas obligé toujours de passer par les vaccins qui, par ailleurs, posent des problèmes, comment je vais dire, d'éthique et parfois sont carrément criminels parce qu'ils comportent des ils permettent de trans, comment je vais dire ça, de transporter d'autres choses en dessous qui peuvent contaminer les gens, ou plutôt pas contaminer, mais les détruire comme stériliser les gens, comme tout ce qui était polio, comme tout ce qui était sida, comme tout ce qui était etc. etc. Bon, on va pas parler de ça parce que là il faut une enquête. Je vais terminer par le Cameroun. Le Cameroun, c'est intéressant. Le Cameroun a reçu 226 milliards ou millions d'euros, soit des millions quand même, c'est pas des milliards, des millions du FMI pour lutter contre, pour l'aider à lutter contre le coronavirus. Comment le Cameroun traite la question du coronavirus? C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup à faire pour la sensibilisation, ça on peut rien dire. Par contre, on ne sait rien sur vraiment ce qui se passe à l'hôpital. Ça, c'est pareil, c'est un peu partout. On se contente de ce qu'on nous dit, on ne dit pas non plus grand-chose. Mais on voit très bien que, on voit très bien, on entend dire que les malades doivent payer de leur poche. On ne sait pas dans quelle mesure c'est vrai. Mais peut-être que c'est vrai, mais on revient toujours à la question de la prise en charge médicale, hein. Il n'y a pas, voilà, comment je vais dire, de CMU ici, donc la couverture universelle maladie, il n'y en a pas. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que dans la sensibilisation, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on parle beaucoup de se laver les mains, c'est très bien, mais il y a une question d'eau, de l'accès à l'eau, l'accès à l'eau potable, qui est toujours non résolu. Et tout cela a donné un couac. Un couac, je ne sais pas comment l'appeler ça, oui, un couac, avec certaines maires, notamment du côté du Noun là-bas, la région, ou, non, c'est un département, je crois, qui ont dit, un collectif de maires, qui ont dit qu'ils étaient très contents du don spécial du chef de l'État qui a envoyé des savons, des masques, des gants, des seaux, des bidons, pour se laver les mains, c'est très bien, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille un peu plus loin, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne plus se contenter du stade élémentaire du traitement de l'épidémie, encore qu'il y ait des problèmes d'eau. Mais le porte-parole du collectif des maires de ce département-là, du Noun, Monsieur Ndamjoya, qui n'est pas rien, parce que c'est un nom, le nom Joya, c'est celui de la famille royale du sultanat de Foumban. Alors, il a dit que lui, eux, les maires du Noun, se disent qu'il faut aller au-delà de tout ce qu'on a énuméré là précédemment, et qu'ils ont besoin des kits de dépistage, qu'ils ont besoin d'appareils respiratoires, qu'ils ont besoin d'une prise en charge, d'aide à la prise en charge socio-sanitaire. Ça comprend l'aménagement de sites pour l'approvisionnement de tout, la mise en quarantaine, l'inhumation, la mobilisation aussi et la sensibilisation des populations en termes de communication. Donc, c'est bien aussi parce que on va plus loin. On va plus loin que ce qu'on voit d'habitude parce que donner les savons, les masques et tout, ça c'est vraiment le niveau zéro de la sensibilisation. Pourquoi? Il est vrai qu'on dit que le virus passe par l'hygiène, il faut se laver les mains, il faut se laver les mains. Mais ici, au Cameroun, il y a deux problèmes, et pas seulement au Cameroun, ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure sur le politique en général. Il y a la question de l'idolâtrie du politique, quoi. Le politique, il arrive et se positionne au Cameroun toujours en termes de paternalisme. Tout ce que l'État fait, c'est le don spécial du président Biya aux populations, c'est le président qui donne, mais le président n'a rien à donner, c'est l'État qui donne. On sait bien qu'il y a un président, mais tout cela, on revient toujours au don spécial de l'État, là, de très, très honorable à donner. Bon, ce culte, je vais dire, pas de la mendicité, mais oh, comment je vais dire, le griotisme et la mendicité, c'est terrible pour l'Africain. Parce que ça le rabaisse toujours. Il est toujours en train de se rabaisser. Il ne se relève pas. Et ça a des effets, franchement, des effets pervers à tous les niveaux. Peut-être que l'administration ne s'en rend pas compte. Hein, c'est possible. Peut-être que c'est la façon africaine de faire les choses. C'est possible. Mais psychologiquement, c'est destructeur. C'est destructeur. Parce que quand on traite d'une épidémie, et surtout que le FMI a débloqué de l'argent, que des gens donnent de l'aide et que cet argent-là, de toute façon, on dit c'est de l'aide, mais on le paye quand même. C'est les populations qui le payent. Donc ce n'est plus vraiment un don du chef de l'État. Et on a ces choses-là qui sont embêtantes, qui viennent diluer le protocole, j'allais dire compassionnel, qui viennent diluer la question sanitaire. On voit par exemple que en face du stade Olembe, qui devrait recevoir le match de la finale de la Coupe d'Afrique, si elle a lieu un jour, parce qu'elle est reportée, enfin un jour ici au Cameroun, elle est reportée en 2022, elle était déjà pour 2 ans il y a, à chaque fois reportée. En face de ce stade à Olembe, on a installé les malades du coronavirus dans des logements sociaux qui ont plus ou moins, je vais dire, un bâtiment, comment on dit ça, abandonné. C'était prévu pour des logements, même pas sociaux, des logements à vente. Vous voyez, et il n'y a pas les moyens pour acheter le logement, c'est trop cher. Désaffecté, plus ou moins, on a dû les traiter, on a installé les malades là. Mais il se trouve que ces sites étaient devenus un site sportif. C'est-à-dire qu'on allait y faire du sport, les gens y marchaient, les gens y courent, les clubs s'y entraînent. Je veux dire, on ne peut pas venir installer là des malades alors que la ville est grande, pile là où les gens peuvent venir respirer, s'oxygéner. Yaoundé, il n'y a pas tant de parcs que ça, c'est des mini-parcs. Les seuls endroits où on peut faire le sport, du sport et respirer, c'était justement autour de ce stade de Lembé. Et autour du Mont Phoebe, un hôtel sur les hauteurs de Yaoundé, où il y a un parcours qu'on appelle parcours Vita de santé, très bien, mais on dit aussi que c'est un parcours qui a été offert par le chef de l'État. Ok, d'accord, tout ce qui s'y trouve, c'est lui qui l'a offert, d'accord, mais c'est fermé, parce qu'on ne peut pas faire de regroupement de plus de 50 personnes, personne n'y entre, c'est là. On erre ici pour respirer à l'extérieur, pour se promener. C'est terrible. Alors, du coup, la question du corona va nous faire du bien. Parce que si l'eau n'arrive pas, les gens n'ont pas d'eau courante chez eux forcément, c'est parce qu'il y a des problèmes d'urbanisation. D'urbanisation ratée, les logements hors normes, tout cela a une répercussion sur l'accès à l'eau en ville, dans beaucoup de quartiers d'ailleurs. Et au-delà de cette question de l'urbanisation, il y a même la fourniture d'eau, le traitement de l'eau, la fourniture de cette eau-là. C'est vrai que c'est lié, ils peuvent dire oui, mais parce que vous ne recevez pas l'eau, parce que vous n'êtes pas équipé, donc vous ne recevrez pas l'eau. C'est possible, on ne sait pas. Mais toujours est-il dit qu'on est dans l'impasse, et c'est le mot qui résume vraiment. Ce billet de flash sur le monde, on est dans l'impasse, on est dans l'impasse, parce que si on craint une deuxième vague de l'épidémie, alors que le professeur Raoul nous dit que c'est, hein, il y a eu la courbe est toujours en cloche, on a déjà dépassé l'effet du pic, donc il n'est pas possible que ça remonte. Et de toute façon, ce serait vraiment terrible si cette courbe devait remonter, mais elle ne remontera pas, si on est toujours dans la science. Mais on peut aussi avoir des imprévus. Et si elle remonte quel cas, ben, ça voudrait dire que tout simplement, le confinement a échoué. Point barre. C'est une note pessimiste, hein? Mais je ne sais pas comment terminer cette émission. Je vous dis simplement, vous avez écouté Radio Silence, c'était Flash sur le Monde depuis Yaoundé. Le président Biya a fait une faveur depuis le 4 mai jusqu'au 30 juin. Il y a des vols Air France, un corridor, le président Biya, je crois, en accord avec le président Macron. Il y a un corridor humain ou humanitaire qui a été ouvert, une possibilité par Air France de voyage entre le Cameroun et la France pour donc rapatrier ceux qui traînent toujours par là, et puis peut-être dans le sens inverse pour apporter ceux qui ont des urgences ici, comme des décès, etc., etc. Il y a donc une solidarité quand même qui s'opère là, qui n'est pas négligeable, qu'on apprécie. Et on se dit à bientôt.